À 6h40, c'est l'heure des enjeux internationaux ce matin en Turquie, où le maire d'Istanbul est en sursis devant la justice. Un tribunal de la ville devait rendre hier son verdict dans le procès d'Ekrem İmamoğlu. La décision a été reportée au 11 novembre et ses partisans dénoncent des manœuvres dilatoires de la part du parti au pouvoir, l'AKP, de Recep Tayyip Erdogan. Car Ekrem İmamoğlu est aujourd'hui l'une des figures de l'opposition au président turc. S'il est jugé aujourd'hui, c'est pour avoir traité d'idiot les juges de la commission électorale. Lors de sa première victoire en 2019 aux élections municipales d'Istanbul, le vote avait été réorganisé 3 mois plus tard et sa victoire à lui en avait été non seulement confirmée, mais avec plus de 780 000 voix de plus que la première fois. Alors fort de cette popularité, Ekrem İmamoğlu est pressenti pour devenir le candidat commun de l'opposition pour la présidentielle de l'année prochaine en juin 2023. Bonjour Élise Massicard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de recherche aux séries Sciences Po. Élise Massicard, comment la nouvelle du report du procès a été accueillie hier par Istanbul? Est-ce que le verdict était attendu et l'affaire très suivie ces derniers temps en Turquie, ou est-ce qu'elle intéresse surtout les Stambouliotes?
Alors, c'est pas une nouvelle qui a fait la une, en fait. Elle est suivie, mais c'est pas non plus extrêmement étonnant. Le report de décision de justice est quelque chose d'assez classique. Donc, pas de grande surprise, pas de grande couverture. Bien sûr, les partisans d'Ekrem İmamoğlu avaient investi le palais de justice et ont fait des déclarations suite à cette non-décision. Mais ce n'était pas, on va dire, une décision extrêmement surprenante, d'autant qu'il n'est pas encore candidat officiel de l'opposition à la présidence de la République. Donc il est un possible candidat parmi d'autres.
Alors il est jugé parce qu'il avait traité d'idiot le Haut Conseil électoral dans un entretien à la presse quand ses 11 membres avaient annulé l'élection municipale de 2019, a priori à la demande de Recep Tayyip Erdogan. Alors lui dit que c'était le ministère de l'Intérieur qu'il avait qualifié d'idiot et pas les juges. Ses partisans disent, voilà, on verra si on peut compter encore sur une certaine autonomie de la justice par rapport au parti au pouvoir, l'AKP. Politiquement, lui, le maire d'Istanbul, en quoi il pose problème à l'AKP, d'abord dans sa manière de faire de la politique?
Alors, il pose problème à l'AKP tout simplement parce que il a gagné une élection, et il a gagné une élection cruciale, ce qui jusque-là, jusqu'en 2019, n'était pas vraiment considéré comme possible. C'est-à-dire qu'il faut garder en tête que l'AKP a vraiment enchaîné les victoires électorales pendant presque 20 ans sans interruption. Et c'était un revers dans la principale ville de Turquie, la plus grande, la plus riche, Istanbul, là où Recep Tayyip Erdogan avait lui-même fait ses premières armes et été élu pour la première fois à la mairie. Donc il y a tout un côté symbolique. Donc c'est ce premier, on va dire, accroc dans la popularité électorale de l'AKP. Ça, c'est une première chose. Et aussi parce que je crois que Ekrem İmamoğlu a fait un petit peu bouger les lignes. Alors, pas tout seul, mais dans sa manière de faire de la politique, dans sa manière de faire bouger certains clivages ou de dépasser certains clivages qui étaient établis, qui étaient, on va dire, considérés comme classiques dans la politique turque, en particulier parce que il est issu du principal parti de l'opposition, donc le parti kémaliste, le CHP. Mais jusque-là, on avait, disons, ce clivage très fort entre électeurs ou électorat, on va dire, laïque, et puis plus conservateur ou pratiquant ou croyant ou islamiste, etc., de l'autre côté. Et lui, dans sa campagne, a vraiment essayé, par exemple, de faire appel à des candidats, à des électeurs conservateurs. C'est aussi parce que son profil sociologique est un petit peu atypique par rapport au cadre classique de son parti. Lui vient d'une famille conservatrice, il vient de la région de la mer Noire, d'ailleurs comme Erdogan. Il vient d'une famille d'entrepreneurs, donc c'est un profil qu'on ne trouve pas trop dans ce parti kémaliste, et c'est un profil qui en fait vient un petit peu manger sur les terres qui étaient celles de l'AKP, mais l'AKP est en recul, donc l'AKP est globalement en difficulté ces dernières années, et donc c'est pour ça que Ekrem İmamoğlu apparaît d'autant plus menaçant.
Alors, vous disiez, Élise Massicard, que s'il a fait bouger les lignes à Istanbul, ce n'est pas tout seul. Il a gagné la mairie d'Istanbul en 2019, mais grâce à une coalition qui regroupe un parti nationaliste turc issu d'une scission avec un allié de l'AKP, c'est le Parti d'Action Nationaliste qui est d'extrême droite, alors que bon, il prône des valeurs de partage, mais passons. Le soutien aussi du parti HDP, le Parti démocratique du peuple, qui est pro-kurde, mais qui ne fait pas partie de la commission électorale, mais qui a apporté son soutien d'une autre manière. Est-ce que cette coalition-là, ces alliances que lui, le maire d'Istanbul, a réussi à nouer pour remporter la mairie, est-ce qu'il pourrait, dans le cas où il serait le candidat de l'opposition à Recep Tayyip Erdogan l'année prochaine, puisque c'est ce qu'on lui demande au sein de l'opposition, est-ce qu'il pourrait fédérer aussi largement qu'il l'a fait à Istanbul?
Alors, il faut voir que cette logique d'alliance, c'est pas lui qui l'a mise en place. C'est quelque chose qui est vraiment lié a une tendance lourde au niveau national, et c'est quelque chose de totalement nouveau dans la politique turque, ou plutôt en tout cas si on considère, on va dire, allez, ces 30 dernières années. Pourquoi? Parce que les alliances électorales ont été rendues possibles, tout simplement parce que l'AKP lui-même avait besoin d'une alliance pour garder, pour rester au pouvoir. Et du coup, de par, on va dire, la concentration extrême du pouvoir autour de l'AKP et de Erdogan, si vous voulez, ça a fédéré une opposition qui jusque-là avait toujours été extrêmement divisée. Et donc, cette opposition qui s'est rassemblée effectivement autour du rejet d'Erdogan ou de la volonté de faire partir ou d'affaiblir l'AKP. Donc ça, c'est une dynamique nationale. Alors, après, cette coalition, elle s'est faite de manière assez différenciée à différents endroits parce que, évidemment, les forces politiques ne sont pas partout les mêmes. Ce qu'a fait spécifiquement Ekrem İmamoğlu, alors lui, c'est qu'il a, disons, il a mis en œuvre cette coalition dans sa pratique du pouvoir. C'est-à-dire que lui est à la mairie, à la tête de la mairie d'Istanbul depuis 2019. Et donc, et il est parvenu jusque-là à faire perdurer cette coalition qui est une coalition contre nature en partie, ou en tout cas hétérogène, puisqu'on y retrouve des nationalistes turcs, et puis également, alors le soutien externe, mais électoralement très important, du parti pro-kurde. Donc ça, c'est l'une des tensions, la principale tension, il y en a d'autres en interne. Et en fait, il est parvenu, İmamoğlu, pour l'instant, à conserver son pouvoir et à gérer en interne, alors on ne sait pas très très bien comment, parce qu'il y a peu de choses qui sortent, mais à gérer à peu près en interne cette diversité de ses soutiens. Et surtout, ce qui a fait sa victoire à Istanbul, c'est que ce parti pro-kurde, qui n'est pas officiellement membre de cette coalition, a quand même joué dans l'élection, dans, on va dire, la mobilisation électorale pour la victoire de İmamoğlu. Et donc, effectivement, c'est aujourd'hui le challenge pour une élection, on va dire, nationale, de transformer l'essai. Pourquoi? Parce que ce parti pro-kurde, en particulier, donc, avait soutenu cette coalition dans l'Ouest, dans les grandes villes de l'Ouest en particulier, où ce parti pro-kurde, de toute façon, n'avait aucune chance de l'emporter, mais il avait quelques, on va dire, pourcentages de voix. Mais dans les zones où il est beaucoup mieux implanté, c'est-à-dire dans les zones à majorité kurde, dans le sud-est du pays, eh bien, il avait présenté ses propres candidats. Et est-ce qu'au niveau national, ce parti pro-kurde soutiendrait un candidat d'opposition à Erdogan et en particulier un candidat du CHP, alors même que le CHP a quand même a longtemps eu, en tout cas, très très mauvaise presse auprès des électeurs kurdes et encore plus pro-kurdes hein, pour avoir été assez fermé sur la question kurde pendant extrêmement longtemps. Donc là, on a une tension vraiment très très forte et elle n'est pas réglée aujourd'hui. Et on peut dire que ça fait partie des vrais enjeux de cette campagne-là, qui est jusqu'où, en fait, la politique turque avec ses clivages, on va dire, classique, est-elle en train de se transformer?
Et justement, cette alliance de la nation qu'on a vu apparaître, c'est une coalition d'opposition de 6 partis qui souhaitent présenter l'année prochaine pour la présidentielle un candidat commun face à Recep Tayyip Erdogan. Est-ce qu'elle va, cette alliance, au-delà d'un simple dénominateur commun anti-AKP, anti-parti au pouvoir, ou est-ce qu'il y a vraiment une vision, il peut y avoir se dégager une vision commune sur la conduite des affaires du pays et particulièrement sur l'économie? La Turquie traverse une crise majeure.
Alors, il y a effectivement ce qui faut pas. Ce qui rassemble vraiment cette opposition, c'est la volonté de faire tomber Erdogan. Ils ont un programme, enfin, ils ont une vision institutionnelle commune. C'est-à-dire que c'est pas seulement la personne d'Erdogan qu'ils veulent faire tomber, mais c'est le système présidentiel mis en place par et autour d'Erdogan suite à la réforme constitutionnelle de 2017. Qui concentre hein, cette réforme constitutionnelle, cette présidentialisation qui aboutit et qui légitime une concentration extrême des pouvoirs. Et donc, ces six partis se sont mis d'accord sur une volonté de retour à un système parlementaire et d'équilibre des pouvoirs plus marqués et de séparation des pouvoirs plus marqués. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a toute une proposition institutionnelle assez détaillée qui fait l'unanimité de tous ces partis. Voilà. Après, si vous voulez, au-delà de cette dimension institutionnelle qui est extrêmement importante, parce que c'est vraiment le fonctionnement du pays hein, dont on parle, au-delà de ça, au niveau purement programmatique pour une élection, je dirais, classique, ces partis ont quand même des visions assez différentes. Et en particulier, vous mentionniez l'économie. Alors, il faut peut-être rappeler pour les auditeurs que la Turquie, depuis 2 ou 3 ans, traverse une crise économique extrêmement grave, que là, l'inflation, je crois, avoisine les 80% et que la situation est extrêmement critique. Et tous les sondages montrent que la première préoccupation des citoyens de Turquie, c'est l'économie. Parce qu'ils n'arrivent plus à clôturer les fins de mois. Donc en fait, sur cette dimension par exemple économique, eh bien, la coalition d'opposition n'a pas vraiment un programme très, très clair. Alors même qu'en son sein, il y a par exemple un ancien ministre de l'économie, il y a des gens qui sont très compétents, mais sans doute y a-t-il des divergences ou sans doute la coalition n'a-t-elle pas donné la priorité à cette dimension-là, ce qui serait étonnant. À mon avis, il y a beaucoup de tensions en interne qui font que c'est difficile d'avancer vraiment sur des enjeux comme ça qui fâchent et qui sont complexes.
Des tensions internes qui laissent augurer la difficulté à nommer quelqu'un à la tête de cette coalition d'opposition pour porter le fer face à Recep Tayyip Erdogan l'année prochaine. D'autres figures pourraient prendre la tête de cette opposition au sein du parti kémaliste, par exemple. Il y a aussi et surtout son chef, le maire d'Ankara, plus âgé, plus installé. On rappelle la différence entre le parti kémaliste, qui est le parti républicain du peuple, et le parti AKP au pouvoir, le parti islamo-nationaliste. La césure est flagrante. Peut-être pour conclure, Élise Massicard, ou ailleurs qu'à Istanbul, Ekrem İmamoğlu, donc maire d'Istanbul, peut-il compter sur d'autres soutiens ou des réserves de voix, puisqu'il a fait récemment une tournée dans la mer Noire et il est allé de bain de foule en bain de foule, ce qui n'était absolument pas prévu.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le fait que l'opposition n'a pas encore désigné son candidat, c'est lié à des tensions internes, à des marchandages, etc. Mais c'est lié aussi à la situation d'extrême incertitude que connaît la Turquie sur la date des élections prochaines, hein, qui pourraient être avancées, et sur une volonté de protéger ce futur candidat. Et par exemple, İmamoğlu, si c'est lui qui est poursuivi en justice. Et donc, il y a tout un jeu sur le temps, en fait, hein, qui n'est pas fini. Alors, après, les autres figures de l'opposition. Donc, il y a le maire d'Ankara, qui n'est pas le chef du parti, qui est encore un troisième potentiel candidat.
D'accord.
Alors, İmamoğlu s'est fait une carrure nationale à partir de son pouvoir d'Istanbul, parce qu'il a une politique de communication extrêmement rodée, parce qu'il a beaucoup insisté alors sur sa manière justement de s'adresser à l'ensemble des citoyens et non pas aux électorats classiques, hein, de son parti, dépasser ses clivages, être ouvert sur un discours, on va dire, beaucoup plus doux et beaucoup plus ouvert hein, que ce à quoi nous a habitué la politique turque. Mais il a donc la capacité à mobiliser bien au-delà d'Istanbul, et en particulier dans la mer Noire, parce qu'il vient de là, comme je le disais, comme Erdogan. Donc là encore, ils sont un peu sur les mêmes plates-bandes. Mais aussi, alors, il a quand même, et le parti en général, pas seulement lui, vraiment essayé un rapprochement avec les électeurs kurdes. Jusqu'à quel point ce rapprochement peut-il se vérifier dans les urnes, ça fait partie des grandes surprises de, qu'on verra, enfin, dont on aura des éléments prochainement.
Merci.
Mais il me semble que les jeunes aussi, qui sont extrêmement nombreux, hein, les primo-votants à ces prochaines élections, pourraient être attirés par la figure de Ekrem İmamoğlu, qui est également l'un des plus jeunes hommes politiques en Turquie et qui porte un renouveau visible pour eux.
Et encore faut-il attendre aussi le verdict de la justice sur la condamnation ou non d'Ekrem İmamoğlu à une peine de prison. Ce sera le 11 novembre. Merci beaucoup Élise Massicard d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheuse au CERI Sciences Po.
France Culture. L'esprit d'ouverture.